Et tout d'un coup, elle comprit d'où provenait cette impression d'orage, mijotant au fond d'elle-même depuis la terrible nuit de samedi. Quelque chose en elle devait avoir eu cette épouvantable pensée, devait l'avoir refoulée, car elle n'eut besoin d'aucune explication. Le seul nom de l'infortuné feu Evelyn Hyde, de Storping on Firkill, le visage si à l'ouest de Little Dunthorpe, suffit à lui arracher un cri terrible. « Oh, par tous les saints, oh, Seigneur Jésus, a-t-elle été enterrée vive? Aurait-on enterrée vivante ma pauvre chérie ?» Et avant même que Geoffrey eut le temps de répondre, ce fut au tour de la solide et inaltérable Madame Ramage de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant et qu'elle ne referait jamais. Elle perdit connaissance et s'effondra d'un seul coup sur le sol. Geoffrey n'avait pas de temps à perdre à chercher des selles. Il doutait d'ailleurs qu'un vieux soldat comme Madame Ramage en conservât par-devers elle. Il trouva en revanche sous l'évier un chiffon imprégné d'une odeur d'ammoniac. Qu'il ne se contenta pas de lui passer sous le nez. Il l'appuya un instant sur son visage. L'éventualité formulée par Coulter, aussi improbable qu'elle fût, était trop effroyable pour s'arrêter à de telles considérations. Elle tressaillit, poussa un cri et ouvrit les yeux. Elle regarda un instant Geoffrey avec une expression interlonquée d'incompréhension, puis elle se mit sur son séant. « Non, dit-elle. Non, monsieur Geoffrey, ne me dites pas que vous y croyez. Ne me dites pas que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, répondit-il. Mais nous devons nous en assurer immédiatement. Immédiatement, madame Ramage. Je ne pourrai pas faire tout le déblaiement moi-même, s'il y a du déblaiement à faire. » Elle écarquillait les yeux, horrifiée, pressant les mains si violemment contre sa bouche qu'elle en avait les ongles blanchis. « Pourrez-vous m'aider si besoin est ? Je ne vois vraiment personne d'autre. »« Notre Lord, murmura-t-elle, notre Lord Yann, il doit tout ignorer de cette affaire. »« Tant que nous n'en saurons pas davantage nous-mêmes, la coupa-t-il. Si Dieu est miséricordieux, il n'en saura jamais rien. » Il n'osa pas formuler devant elle le fol espoir qui hantait son esprit, fol espoir qui lui paraissait aussi monstrueux que ses craintes. Si Dieu était véritablement très miséricordieux, il le saurait avant la fin de la nuit, quand sa femme et son seul amour lui seraient rendus, un retour d'entre les morts aussi miraculeux que celui de Lazare. « Oh, c'est terrible, terrible !» fit-elle d'une petite voix flageolante. S'agrippant à la table, elle se remit elle-même sur pied. Elle oscilla un peu une fois debout, des mèches de cheveux pendant des bords de son bonnet de nuit. « Vous sentez-vous suffisamment bien ? » demanda-t-il, d'un ton radouci. « Sinon, je vais y aller tout seul. » et faire du mieux que je pourrai. » Elle prit une profonde inspiration, traversée d'un frisson, et souffla. Son oscillation s'arrêta. Elle fit demi-tour et se dirigea vers l'arrière-cuisine. « Il y a une paire de pelles dans la pantie dehors, dit-elle, ainsi qu'un pic, je crois. Allez les jeter dans votre cabriolet, et il reste une demi-bouteille de gin dans l'arrière-cuisine. » Personne n'y a touché depuis la mort de mon pauvre Bill, il y a 5 ans, la nuit de la Saint-Pierre. J'en prends une gorgée et je vous rejoins, monsieur Geoffrey. Vous êtes une femme courageuse, madame Ramage. Faites vite. Oh, comptez sur moi, répondit-elle, tandis qu'elle s'emparait de la bouteille de gin d'une main qui ne tremblait qu'à peine. On ne voyait pas de poussière sur la bouteille. L'arrière-cuisine elle-même n'échappait pas à la guerre impitoyable menée contre la poussière par la gouvernante. Mais l'étiquette sur laquelle on lisait « Claude and poor Bouzus » était jauni. « Vous-même, ne traînez pas. » Elle avait toujours eu les alcools en horreur. et son estomac se révolta contre l'abominable goût de genièvre et la consistance huileuse du produit, mais elle tint bon. Cette nuit, elle allait en avoir besoin. Sous les nuages qui couraient toujours d'est en ouest, forme plus noire encore contre un ciel noir, et alors que la lune venait se poser sur l'horizon, le cabriolet fonçait vers le cimetière. C'était Madame Ramage qui conduisait maintenant et faisait claquer son fouet au-dessus des oreilles de la fauve Mary, tout effrayée, laquelle leur aurait dit, si les chevaux avaient pu parler, que tout cela était injuste, qu'elle aurait dû normalement se trouver en train de somnoler bien au chaud dans son écurie à 7 heures de la nuit. Les pelles et le pic jacassaient sèchement les uns contre les autres, et la vieille gouvernante se fit la réflexion que quiconque les aurait vus dans cet équipage aurait été saisi de peur. Ils devaient avoir l'air de deux revenants sortis de l'une des histoires de ce monsieur Dickens dont on commençait à parler, ou encore d'un revenant dans un cabriolet conduit par un fantôme, car elle était tout en blanc, n'ayant même pas pris le temps d'aller décrocher sa robe de chambre. Sa chemise de nuit flottait autour de ses chevilles alourdies, gonflées de varices, et les rubans de son bonnet voltaient derrière elle comme des oriflammes. L'église fut enfin en vue. Elle engagea Mary dans l'allée qui l'allongeait, frissonnant au susurrement inquiétant du vent dans les chéneaux. Elle se demanda un bref instant pour quelle raison un lieu aussi saint qu'une église pouvait bien paraître aussi effrayant de nuit. Puis elle comprit que ce n'était pas l'église, mais le but de leur sortie qui la terrorisait. Sa première pensée, en sortant de son évanouissement, avait été que Lord Diane devait les aider. N'avait-il pas été présent en toutes circonstances, grandes ou petites, sans jamais faire preuve de faiblesse? L'instant suivant, elle se rendait compte de la folie de cette idée. Ce n'était pas le courage de Lord Diane qui était en question, mais sa santé mentale. Elle n'avait pas eu besoin de se le faire dire par M. Geoffrey. Le souvenir de la pauvre Evelyn Hyde avait suffi. Il lui vint tout à coup à l'esprit que ni Lord Diane, ni M. Geoffrey ne s'étaient trouvés à Little Dunthorpe lorsque le drame s'était produit, il y avait environ 6 mois de cela. Misery venait d'entrer dans la période faste de sa grossesse. Les nausées matinales étaient terminées, son ventre n'avait pas encore cette lourdeur des derniers mois et l'inconfort qui en résulte. Et elle avait joyeusement envoyé les deux hommes passer une semaine à Oak Hall, à Doncaster, pour chasser le coq de bruyère, jouer aux cartes, faire des parties de football, le nouveau jeu à la mode, et se livrer à toutes les folies masculines que l'on pouvait imaginer. Lord Diane s'était montré tout d'abord réservé, mais Misery lui avait juré qu'elle allait admirablement bien, et elle avait presque dû le mettre dehors. Madame Ramage ne doutait pas que Misery irait parfaitement bien. Mais à chaque fois que Lord Diane et M. Geoffrey partaient pour Doncaster, elle se demandait si l'un d'eux, sinon tous deux, n'allait pas revenir les pieds devant, sur une charrette. Le château de Oak Hall était la propriété de la famille d'Albert Fossington, un ami de Yann et Geoffrey du temps du collège. Madame Ramage croyait sincèrement que Bertie Fossington était fou. Quelques années auparavant, il avait mangé son poney de polo favori. L'animal s'était cassé de jambes et avait dû être abattu. Le manger avait été un geste d'affection, d'après Lord Albert. « Appris ça chez les guerriers nègres du Cap », avait-il expliqué. « Les Gricas, des types merveilleux. Mettre des tas de trucs dans leur babine. Il y en a, on dirait qu'ils pourraient se fourrer l'encyclopédie royale en 10 volumes dans la lèvre inférieure. Ha ha, m'ont appris qu'un homme doit manger les choses qu'il aime. Poétique dans le genre macabre, non ?» En dépit de cette bizarrerie de comportement, Lord Diane et M. Geoffrey éprouvaient la plus grande affection pour Lord Albert. « Je me demande si ça veut dire qu'ils devront le manger lorsqu'il sera mort », s'était interrogée Madame Ramage à l'issue d'une visite de Bertie Fossington, au cours de laquelle il avait voulu jouer au croquet avec l'un des chats de la maison, auquel il avait bien failli casser la tête, et ils avaient passé près de 10 jours à Oak Hall au cours de ce dernier printemps. À peine un jour ou deux après leur départ, on avait trouvé Miss Charlotte Evelyn Hyde de Stopping on Firkill, morte sur la pelouse, derrière sa maison, Cove aux Birches. Un bouquet de fleurs fraîchement coupées gisait à côté de sa main droite. Le médecin du village était un nommé Jonathan Bilford, homme compétent de la vie générale. Il avait malgré tout fait appel à son collègue, le docteur Scheinborn, pour avoir son avis. Bilford avait fait un diagnostic d'attaque cardiaque foudroyante. Mais la jeune fille était très jeune, elle n'avait que 18 ans, et paraissait éclatante de santé. Bilford était intrigué. Quelque chose paraissait ne pas aller. Le vieux Shiny s'était montré manifestement aussi intrigué que lui, mais avait fini par approuver le diagnostic, ce que fit aussi tout le village. Le cœur de la pauvrette était mal constitué, c'était tout. De telles choses sont rares, mais chacun se rappelait un cas semblable s'étant produit à un moment ou un autre. C'est probablement cet accord unanime qui empêcha le docteur Bilford de perdre sa clientèle, sinon sa tête, après le sinistre dénouement de l'affaire. Car si tout le monde trouvait bizarre la mort de la jeune fille, il n'était venu à l'idée de personne qu'elle ne fût point morte. 4 jours après son enterrement, une femme âgée du nom de Soames, Madame Ramage la connaissait vaguement, aperçut quelque chose de blanc qui gisait sur le sol du cimetière de l'église en venant déposer des fleurs sur la tombe de son défunt époux mort l'hiver précédent. C'était trop gros pour être un pétale de fleurs. Et elle crut tout d'abord à quelque oiseau mort. En s'en approchant, elle se rendit compte que l'objet blanc n'était pas simplement posé sur le sol, mais qu'il en dépassait comme s'il y était planté. Faisant encore 2 ou 3 pas hésitants, elle vit alors une main qui se tendait à travers la terre d'une tombe fraîchement creusée, les doigts pétrifiés en un geste horrible de supplication. Tous les doigts, sauf le pouce, se terminaient par un os ensanglanté. Madame Soames courut hors du cimetière en criant et galopa ainsi sans s'arrêter jusqu'à la grande rue de Stopping, une course de près de 2 kilomètres, pour aller informer le barbier qui faisait également office de constable local. Sur quoi, elle avait perdu connaissance, on dut la coucher, et elle resta alitée presque 1 mois. Personne au village n'y trouva à redire. On avait bien entendu exhumé le cadavre de la malheureuse Evelyn Hyde, et tandis qu'il s'approchait du portail du cimetière de Little Dunthorpe, Madame Ramage se mit à regretter amèrement d'avoir écouté le récit de cette exhumation. Il était épouvantable. Le docteur Bilford lui-même, secoué au point d'être à 2 doigts de perdre la raison, émit un diagnostic de catalepsie. La malheureuse enfant s'était retrouvée dans une sorte d'état de transe proche de la mort, tout à fait semblable à celui que savent provoquer à volonté certains fakirs indiens avant d'être enterré vivant ou de se faire traverser la peau par des aiguilles. Elle était restée dans cet état de transe pendant au moins 48 heures, et peut-être 60. Assez longtemps en tout cas pour se réveiller non pas sur la pelouse de la maison où elle cueillait des fleurs, mais enterrée vive dans son cercueil. La jeune fille s'était farouchement battue pour sa vie. Et Madame Ramage trouvait maintenant, tout en suivant Geoffrey dans le cimetière, au milieu d'une brume de sol qui transformait les croix des tombes en îlots isolés, que ce qui aurait dû être une épreuve de noblesse ne faisait qu'ajouter en horreur à ce tragique événement. La jeune fille était fiancée. À sa main gauche, pas celle qui était sortie du sol, pétrifiée comme une main de noyé, elle avait sa bague de fiançailles, surmontée d'un diamant. Elle avait commencé par déchirer la garniture de satin de son cercueil, et pendant Dieu seul savait combien d'heures, elle s'en était servie pour creuser petit à petit le couvercle de bois. À la fin, manquant d'air, elle avait apparemment utilisé l'anneau pour agrandir l'excavation, et la main droite pour s'ouvrir un chemin vers le ciel. Mais elle y était arrivée trop tard. Elle avait le visage congestionné et les yeux injectés de sang emplis d'une horrible expression d'épouvante. Dans le clocher de l'église, le carillon se mit à égrener les 12 coups de minuit, l'heure à laquelle, lui avait dit sa mère, s'entrouvent légèrement les portes qui séparent la vie de la mort, permettant aux défunts de passer d'un monde à l'autre. Et Madame Ramage dut consentir un effort surhumain pour ne pas s'enfuir en hurlant, prise d'une panique qui n'aurait fait que s'accroître à chaque instant. Elle savait que si elle se mettait à courir, elle ne s'arrêterait que pour tomber, morte ou évanouie. Femme stupide et couarde, s'invectivait-elle intérieurement, se reprenant pour ajouter « Non seulement stupide et couarde, mais égoïste. C'est à notre Lady Misery que tu dois penser maintenant, et non à tes peurs imbéciles. Et s'il existe la plus petite chance que notre Lady... » Ah mais non, c'était de la folie pure de seulement envisager une chose pareille. Cela faisait trop longtemps. Geoffrey l'avait conduite jusqu'à la tombe de Misery et tous deux s'étaient immobilisés comme hypnotisés. « Lady Calthorpe », lisait-on sur la pierre. En dehors de ses dates de naissance et de mort, on avait ajouté « aimée de tous ». La vieille gouvernante regarda Geoffrey et dit, comme si elle se réveillait d'un songe, « Nous n'avons pas apporté les outils. » « Non. » Non, pas encore, répondit-il. Sur ce, il s'étendit de tout son long sur le sol et plaça une oreille contre la terre, où l'on voyait déjà les pointes tendres de l'herbe nouvelle au milieu des mottes, plus ou moins bien remises. Pendant quelques instants, la seule expression affichée par le jeune homme à la lueur de la lampe qu'ils avaient prise avec eux fut celle qu'il gardait depuis que Madame Ramage lui avait ouvert sa porte, un air d'épouvante angoissée. Puis cette expression se transforma, laissant la place à une autre, dans laquelle, à la plus extrême horreur, se mêlait quelque chose qui ressemblait à un espoir fou. Il leva vers Madame Ramage des yeux exorbités, tandis que sa bouche s'agitait. « Je crois qu'elle vit !» finit-il par articuler, d'une voix étranglée sans force. « Oh, Madame Ramage !» Il se tourna soudain sur le ventre et se mit à hurler vers la terre, d'une manière qui, en d'autres circonstances, aurait été comique. « Misery ! Misery, nous sommes ici ! Nous savons ! Tenez bon, ma chérie !» L'instant suivant, il était debout et fonçait à toutes jambes vers le cabriolet où étaient restés les outils, agitant de tourbillons la brume placide qui montait du sol. Les genoux de la gouvernante se dérobèrent sous elle. Elle bascula en avant sur le point de s'évanouir une deuxième fois. Involontairement, aurait-on dit, sa tête glissa de côté et son oreille droite vint se coller au sol. Elle avait vu des galopins faire de même contre un rail pour entendre arriver le train. Et elle l'entendit. Des grattements presque imperceptibles montant de la terre, non pas le bruit d'un animal qui creuse, mais celui de doigts, impuissants entamés du bois. Elle prit une grande inspiration, qui provoqua un hoquet, mais qui parut faire repartir son cœur. À son tour, elle cria « Nous arrivons, ma lady, loué soit Dieu, et prions Jésus pour que nous arrivions à temps !» Elle se mit aussitôt à arracher frénétiquement les mottes encore mal tassées de ses doigts tremblants, et alors que Geoffrey n'avait mis qu'un instant pour revenir, à son retour, elle avait déjà creusé un trou de 20 centimètres. Il s'était déjà avancé de 9 pages dans le chapitre 7. Geoffrey et Madame Ramage avaient réussi à sortir Misery de sa tombe au tout dernier moment, et à se rendre compte que la jeune femme n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient, ni même de sa propre identité, lorsqu'Annie entra dans la chambre. Cette fois-ci, il l'entendit. Paul arrêta de taper, désolé d'être tiré de son rêve. Elle tenait les 6 premiers chapitres à la main. Il lui avait fallu moins de 20 minutes pour lire ce qui était son premier jet. Il n'y avait qu'une heure qu'il lui avait remis ce paquet de 21 pages. Il l'observa sans siller, mais non sans remarquer avec un léger intérêt que Annie Wilkes était un peu pâle. « Eh bien » demanda-t-il. « Est-ce que c'est correct ?»« Oui » répondit-elle d'un ton absent, comme si c'était une conclusion acquise d'avance, ce qui allait de soi pour Paul. « C'est correct et c'est bon. Très bon, excitant. Mais c'est macabre aussi. Ça ne ressemble à aucun autre des Misérés. Cette pauvre femme qui s'écorche les doigts jusqu'à l'os. » Elle secoua la tête et répéta « Ça ne ressemble à aucun autre des Misérés. » L'homme qui a écrit ces pages était dans un état d'esprit plutôt macabre, figurez-vous, pensa Paul. Dois-je continuer ? Vous êtes un homme mort si vous ne le faites pas, répondit-elle avec un début de sourire. Paul ne le lui rendit pas. Ce commentaire qu'il aurait autrefois associé à des lieux communs, comme elle a de si bonnes joues qu'on en mangerait, lui paraissait maintenant avoir perdu toute banalité. Il y avait cependant quelque chose dans la manière dont elle se tenait sur le seuil qui le fascinait. On aurait dit qu'elle craignait un peu de s'avancer, comme si elle risquait de se brûler en l'approchant de trop près. Ce n'était pas cette histoire rocambolesque de personnes enterrées vives qui avait provoqué cette réaction. Et il fut assez judicieux pour s'en apercevoir. Non, c'était la différence entre son premier essai et celui-ci. Dans le premier, il y avait eu autant de vie que dans la copie d'un gamin de 6e. Comment j'ai passé mes vacances d'été ? La nouvelle version était bien différente. La machine tournait à plein régime. Oh, non pas qu'il trouvât particulièrement génial ce qu'il avait écrit. L'histoire ne manquait pas de nerfs, mais les personnages étaient toujours aussi stéréotypés et prévisibles. Il lui avait cependant insufflé une certaine énergie et le feu couvait entre les lignes. Amusée, il se dit, elle a senti la chaleur, je crois qu'elle a peur de s'approcher et de se brûler. Eh bien, reprit-il doucement, vous n'aurez pas besoin de me tuer, Annie. J'ai très envie de continuer. Alors, pourquoi ne pas s'y mettre tout de suite ? Très bien. Elle lui apporta les pages, les posa sur la planche et battit rapidement en retraite. « Voudriez-vous le lire au fur et à mesure » demanda-t-il. Annie sourit. « Oh oui, ce serait presque comme les feuilletons quand j'étais petite. » « Je ne vous promets pas un suspense brûlant à la fin de chaque chapitre, » l'avertit-il. « Ce n'est pas comme cela que ça marche. » Mais pour moi, ce sera parfait, répondit-elle avec ferveur. Je voudrais absolument savoir ce qui arrive dans le chapitre 18. Même si à la fin du 17, Misérée et Yann sont tranquillement assis dans des fauteuils sur le porche, en train de lire des journaux, j'ai toujours une furieuse envie de savoir ce qui arrive après. Surtout, ne dites rien, ajouta-t-elle précipitamment, comme si Paul se préparait à vendre la mèche. « Eh bien, en général, je ne montre pas mon travail tant qu'il n'est pas terminé, » répondit-il avec un sourire cette fois. « Mais étant donné que ceci est une situation particulière, je serais heureux de vous le laisser lire chapitre par chapitre. » Et voilà comment ont commencé les 1001 nuits de Paul Sheldon, pensa-t-il. « Mais je me demandais si vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi. »« Quoi ? Remplir tous ces maudits N qui manquent. » Elle eut un sourire radieux, Ce serait un honneur. Je vous laisse tranquille maintenant. » Elle hésita au moment de franchir la porte, se retourna, et avec une timidité romanesque qu'elle devait jamais lui adresser, c'était peut-être une abeille au fond. Il avait déjà les yeux sur la feuille blanche glissée dans la machine. Il cherchait le trou. Il voulait absolument ramener Misery chez Madame Ramage avant d'arrêter, et il regarda Annie avec une impatience qu'il lui cacha soigneusement. « Je vous demande pardon ?»« Une abeille, » répéta-t-elle. Il vit une rougeur s'étendre sur son visage et gagner son cou. Bientôt, ses oreilles elles-mêmes étaient écarlates. Une personne sur 12 est allergique aux piqûres d'abeilles. J'ai vu des tas de cas avant de prendre ma retraite d'infirmière. L'allergie peut se manifester de toutes sortes de manières. Une piqûre peut parfois provoquer un état comateux similaire à ce qu'on appelle catalepsie. Sa rougeur atteignait maintenant des proportions inquiétantes. Paul examina brièvement cette idée et la rejeta mentalement dans la corbeille des inutilisables. Une abeille aurait pu être à l'origine de l'état de catalepsie de la malheureuse Miss Evelyn Hyde et de son enterrement fatal. Ça tenait d'autant mieux debout que le drame s'était produit au printemps, dans un jardin, alors précisément qu'elle cueillait des fleurs. Mais il avait déjà décidé d'inventer une cause commune, ou du moins un lien entre les deux fausses morts afin de rendre leur coïncidence crédible. Et Misery avait succombé dans sa chambre. Le fait que l'on fût à la fin de l'automne n'était pas en soi un problème. Le problème était la rareté des réactions cataleptiques. Il s'était dit qu'un fidèle lecteur n'avalerait pas que deux femmes n'ayant aucun rapport puissent être enterrées vivantes à 6 mois d'intervalle suite à un état de catalepsie induit par une piqûre d'abeille. Il ne pouvait cependant l'expliquer à Annie, et pas seulement parce qu'elle pourrait s'irriter. Il était hors de question de le lui dire, car cela la froisserait profondément, et en dépit de tout le mal qu'elle lui avait fait, il ne tenait pas à la blesser de cette manière. On l'avait lui-même blessé ainsi. Il s'en tira en faisant appel à l'euphémisme habituel des ateliers d'écriture dans ce cas-là. C'est une possibilité, c'est vrai. Je vais la mettre de côté, mais j'ai déjà mon idée sur la question. Il se peut qu'elle ne cadre pas avec. Oh, je comprends cela. C'est vous l'écrivain, pas moi. Oubliez ce que j'ai dit. Je suis désolé. Ne soyez pas ri. Mais elle avait disparu. Et son pas précipité et lourd était presque celui de quelqu'un qui court. Elle avait pris la direction du salon, et lorsque Paul leva la tête, il ne vit que l'encadrement vide de la porte. Et soudain, ses yeux s'agrandirent. Sur chacun des montants, à environ 25 centimètres du sol, il y avait une marque noire, celle qu'avait laissée, comprit-il aussitôt, les capuchons du moyeu de ses roues lorsqu'il avait forcé le passage. Jusqu'ici, elle ne les avait pas remarqués. Cela faisait presque une semaine et qu'elle n'eût rien vu relever du miracle. Mais bientôt, demain, peut-être même cet après-midi, elle allait passer l'aspirateur et elle lui sauterait à la figure. Elle ne pourrait pas ne pas les voir. Paul n'écrivit pas grand-chose pendant le reste de la journée. Le trou dans le papier avait disparu.